بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شيخ خير شيخ سير الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous réunit aujourd'hui ce 27e Ramadan de l'année 1440-2019 dans cet endroit béni, Mubarak, de cette masjid pour, déjà on a accompli la salat, alhamdulillah, et nous sommes en train de compléter un des piliers de notre din, de notre religion. Nous sommes en train de compléter le mois béni de Ramadan et nous avons vécu, bifadlillahi ta'ala, 27 jours, Inch'Allah, qui étaient exceptionnels. Et nous espérons que c'était les 27 meilleurs jours de cette année 2019 pour nous et surtout les plus profitables. Et Inch'Allah également, le Ramadan, certainement, on espère le plus constructif pour notre iman. Parce que l'objectif du Ramadan, c'est avant tout de préparer son akhirah et sa rencontre avec Allah Azza wa Jal. Il faut qu'on arrive à adopter le bon schéma des actes d'adoration et réaliser que le ibada, c'est comme les ulama aqida expliquent, c'est huwa at-tadhallul wal-khudu', c'est des actes de soumission à Allah Rabbul Izzah. C'est-à-dire le ibada, l'acte d'adoration, est composé de, on va dire, l'action extérieure et qui est donc visible, et cette action-là, elle est légiférée par Allah. Et c'est uniquement Allah qui est en droit de légiférer, de décréter si le mu'min se rapprochera de lui par tel acte ou tel acte. Et dans le fond du ibadah, il y a la recherche de soumission à notre Seigneur. Et la recherche de soumission, ikhwani fillah, akhawati fillah, c'est essentiel. Et c'est ce qu'on appelle en arabe le istislam. Al-istislam, c'est une des qualités, on appelle ça des a'mal ou le qulub, une des qualités intérieures donc qui doit habiter le cœur de chaque mu'min. Et ce istislam, cette soumission à Allah Rabbul Izzah, elle résulte en fait de la puissance de notre iman billah, de la puissance de notre foi en Allah. Ça veut dire que plus un mu'min connaît son Seigneur, plus un mu'min croit en Allah. Plus un mu'min connaît son Seigneur et croit en Allah, plus il a cette qualité de soumission, tout comme il a la qualité de sincérité et il a l'intention ferme de istiqama, de fermeté dans ses bonnes œuvres, dans ses actes d'adoration. Ça veut dire que tout va découler, tout va naître, on va dire, de iman billah. À partir du moment où on a la foi en Allah qui a atteint un degré qui est correct, le degré qui est requis pour le mu'min, ça va se ressentir dans nos bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'on trouvera premièrement une facilité à accomplir les bonnes actions, ça c'est la phase préparatoire. On trouvera la dévotion et la concentration de nos bonnes œuvres, ça c'est pendant l'accomplissement de l'action. On va ressentir une implication totale, ce qui va se traduire par une envie de le faire et le cœur qui est profondément attaché à cette bonne action. Un tel point que le mu'min n'a pas envie de s'arrêter. Et quand l'action est terminée, ben on est pressé de recommencer l'action. On donne un exemple très clair. Hier soir, c'était la nuit du 27e. Alors, est-ce que c'était la nuit du destin? Allahu a'lam. Certains vont vers des interprétations assez faciles et qui souvent est à double tranchant, sans sortir du sujet. Des fois, on se dit que ben, la nuit du destin, c'était le 27e. Et du coup, le 27e au matin et le 28e, on lève le pied. Et là, on va s'occuper à préparer le riz, acheter les gâteaux, finaliser les commandes, trouver les vêtements. C'est comme si que le Ramadan était terminé avec la nuit du 27e. Grave erreur. Grave erreur parce qu'on a tellement besoin de ces secondes, j'allais dire de ces minutes. On a tellement besoin de ces minutes et de ces secondes du mois de Ramadan qu'on ne peut pas se permettre de se focaliser sur une nuit, une journée, une matinée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a tout propagé de la part d'Allah azza wa jal, comme Allah le dit, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réellement tout propagé de la part d'Allah azza wa jal. Et dans cette propagation qui était totale, le prophète sallam ne nous a pourtant pas dit quand a lieu la nuit du destin, parce qu'Allah a décrété que la Ummah n'est pas cette connaissance. Et si Allah Rabbul Izza, dans sa hikmah, dans sa sagesse, a décrété que la Ummah n'est pas la connaissance de la nuit du destin, c'est pour que nous fassions le maximum d'efforts durant la dernière décade. Donc ça c'était une petite parenthèse concernant, puis souvent le problème aussi vient du fait qu'on oriente nos, entre guillemets, nos grandes nuits, nos bayans spécifiques à la nuit du destin, à la 27e, ce qui fait que dans l'inconscient, on va dire collectif, on finit par intégrer que la nuit du destin c'est le 27e, et ce qui fait que le 21e, le 23e et le 25e, on y va à un rythme d'échauffement. Le 27e, là ça correspondait à un samedi soir, donc c'était parfait. Le lendemain c'était un dimanche, on a pu peut-être rattraper nos heures de sommeil. Mais en aucun cas, pour faire court, en aucun cas il ne faut pas se dire que c'est la 27e et rien d'autre. Il y a un kalam, nafis, jiddan, une synthèse qui a été rédigée par un savant contemporain, et j'aimerais le partager afin que nous avancions ensemble dans le haq et dans la recherche de la vérité. Le savant fait une synthèse entre l'annonce mujmal, de façon générale, que le prophète avait fait que la nuit du destin est dans la dernière décade, et ensuite les précisions apportées par le prophète. Quel intérêt, on pourrait dire, avec du recul, hein, avec du recul et du respect, bien sûr, on se dit, mais pourquoi est-ce que le prophète, dans un premier temps, reste vague et dit que Allah ne nous a pas révélé, et ensuite il donne des détails, des précisions? On peut se dire que soit on reste cette information, celle de la dernière décade, ou alors le prophète nous dit clairement c'est telle date. Et ce savant a fait une synthèse très intéressante. Il dit que les précisions découlaient entre autres des questions d'un bédouin. Un bédouin donc qui habitait à l'extérieur de Madina et qui voulait vraiment passer la nuit impaire, la nuit du destin, dans la Masjid Nabawi. Mais il n'avait pas la possibilité donc de faire le trajet tous les jours. Comprenez, à dos de chameau, avec de très grandes distances dans le désert, où il n'y a pas la sécurité, et climat, ainsi de suite, bref. Et donc ce bédouin avait dit au prophète sallam que je ne pourrais pas venir tout le temps, donne-moi un jour, donne-moi une indication, quelle joie si je dois venir si je dois venir à Madina, quel jour tu me conseilles de venir? Et c'est à partir de là que le prophète sallam aurait donné quelques indications. Mais d'une manière générale, l'approche du mu'min, c'est la recherche de cette nuit durant la dernière décade. Qu'Allah nous donne la possibilité de rester donc concentré et autour de cet objectif qui a été voulu par Allah, objectif qui est voulu par Allah, donc par une date qui n'est pas connue, afin que nous profitions au maximum de ces ayyams et de ces layali du mois de Ramadan. Ainsi, on disait qu'un exemple d'implication, c'est lorsque, par exemple, il y a un soir, imaginez, je passe une heure ou deux heures de tahajjud, d'accord? Imaginez que à 1h30 du matin, on est sur le tapis de prière, et jusqu'à 3h30 ou 4h, et que à l'issue de ce tahajjud, on est normalement très fatigué, ce qui est tout à fait normal. On est fatigué, on manque de sommeil, voilà. Et que un signe d'implication et de connexion du cœur avec Allah, et donc de présence de Amal al-Qulub et de présence de Iman Billah, c'est que à l'issue de ce tahajjud, je suis pressé de revivre cette même nuit lundi soir. J'attends avec impatience quand est-ce que Allah m'accepte encore pour me présenter devant lui et me jeter. Et moi, j'aime utiliser ce verbe, même si ça l'a déplacé, se jeter à même le sol en prosternation devant Allah. Il n'y a rien de plus puissant que lorsqu'on fait la salat de Tarawih et qu'on a les ayats de sujud de Tilawa, lorsqu'il y a les versets de prosternation, et qu'on essaie un peu, ce qui serait vraiment bien, après on va sortir mille fois du sujet, ce qui serait pas mal, c'est avant chaque salat de Tarawih, même si ça, là on est presque à la fin, on essaie d'anticiper un peu les lectures et de voir quels sont les passages, les sourates, les rukus qu'on va lire. Et ce qui est très intéressant et qui nécessiterait un programme, on est Moudjahid et là, ou d'autres, on va dire, d'autres référents à Saint-Louis, ce qui serait bien un jour dans chaque ville, c'est de faire une étude des ayats de sujud tilawa et de voir pourquoi est-ce qu'Allah nous demande de nous prosterner à ces moments-là. Ce n'est pas des ayats au hasard, hein, bien sûr, ce sont des versets très profonds où des fois on parle de l'ensemble de la création qui se prosterne devant Allah, et du coup tu fais al-inqiyad, tu fais ittiba', tu te reconnais comme étant khalqun min khalqillah, comme étant un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Et quand tu lis les versets qui stipulent que toute la création se prosterne devant Allah, ben c'est là que ça prend tout son sens. Ben tu te jettes en sujoud devant Allah, tu accroches ton front au sol, tu reconnais ton rang de abid, d'adorateur, de créature, de serviteur d'Allah, et que devant toi il y a le ma'boud, celui qui est digne d'être adoré, la ma'boud bihaqqin illahu, et que tu n'as plus envie de te lever. Si ce n'était pas le imam qui redisait Allahu Akbar pour se lever, tu serais resté des minutes, des heures et plus même, parce que tu te reconnais parmi les serviteurs d'Allah. Vous voyez ce sens profond, cet attachement au ibadah, c'est ce qu'on a besoin de reconstruire. Et tout ça découle du aqidah sahih, d'une croyance qui est pure et authentique et qui est basée sur les six piliers ou les branches, comme on les appelle, peu importe, les six branches de la foi, et qui commence par iman billah que le prophète a inculqué, a enseigné aux sahaba pendant combien d'années? Pendant toute la période makkiyya, pendant toute la période à Mecca. Très souvent on fait le raccourci, 13 années c'était iman et 10 années Mecca c'était a'mal. Ce n'est pas aussi simple que ça. Les premières années jusqu'au mi'raj, jusqu'au voyage nocturne, effectivement, c'était essentiellement la foi. Et à partir du voyage nocturne, il y a eu le premier pilier d'islam, la salah. Mais tout au long de la période madani, le prophète a continué à enseigner aux sahaba le aqidah mais bit tafsil, en enseignant également quels sont les péchés, tout ce qui rapproche du shirk et ainsi de suite à éviter. C'est-à-dire que l'enseignement du aqidah s'est fait de façon permanente. Là où on va en venir, c'est que nous avons arrêté d'apprendre la aqidah depuis qu'on a fini d'apprendre le kalima avec Moulissa Bamadressa. Depuis qu'on a commencé notre premier kalima, deuxième kalima, jusqu'à Iman et Mujimal et Iman et Mufassal, c'est comme si la aqidah s'est complétée en classe 4, en classe 5, et ensuite on s'était forcé d'apprendre la jurisprudence, le fiqh, la sirat et les hadiths tafsir, ce qui est très bien, mais on a arrêté de développer Iman Billah, ce qui cause beaucoup de préjudice et de nars, de nursan, si on veut dire aussi, de manquement dans notre Iman Billah, et donc cela se ressent mais directement dans toutes nos bonnes actions. Manque, déficit de ikhlas, déficit de istislam, de soumission à Allah, manque de khushu' qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashu'un, ceux qui éprouvent de la dévotion dans la salat, et manque de ikhlas. Une partie de ikhlas c'est également cette intention ferme de soumission et de fermeté de la soumission. Et c'est l'ikhlas tam, comme Youssouf alayhi salam avait dit, si le verset nous revient, qu'est-ce que Youssouf alayhi salam avait dit encore en utilisant le mot ikhlas, ça ne me revient pas, il avait utilisé un terme que je voue toute ma vie à Allah. Et les savants disent que c'est le vrai ikhlas. La vraie sincérité, c'est pas uniquement cette lecture de Coran pour Allah ou cette salat pour Allah, c'est que toute ta vie, tu consacres à Allah du début jusqu'à la fin. Et ça rejoint le verset qu'il dit « Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ». Et c'est-à-dire toute ma vie, je donne à Allah. Et ça rejoint « Wa ma khalaqtul jinn wa l'insa illa li ya'budun ». Je n'ai créé les djinns et les ins et les êtres humains si ce n'est pour l'adoration d'Allah. C'est-à-dire que quand on a intégré ces ayat, ces versets qui constituent le socle de la croyance du mu'min, qui constitue la base de la relation du mu'min, du croyant avec Allah Rabbul Izzah, assurément, on développe un iman billah qui est correct. Et assurément, les a'mal al-quloub sont présents, les actions intérieures sont présentes dans ma vie, et je finis par ressentir chacune de mes bonnes actions. Et je finis par ressentir cette qualité qui est immense et qui est merveilleuse, et qu'Allah accorde à qui il veut et qu'Allah me l'accorde, la fameuse douceur de la foi qu'on appelle en arabe halawatul iman, la fameuse douceur de la foi qui te permet de ressentir cette extase quand tu es de l'adoration. Cette extase, elle ne se manifeste pas de façon audible, hein, je vous rassure, c'est un extase intérieur où le mu'min, quand il est de l'ibadah, je vous assure, ben, il se sent bien, et il se sent tellement bien qu'il n'aimerait rien d'autre au monde à cet instant, si ce n'est de continuer à évoluer, à ressentir ce lien profond qu'il y a entre le abid et le ma'boud, entre l'adorateur et celui qui est digne d'être adoré. Et cet état d'esprit, cette l'élévation d'âme, ce niveau spirituel, les Sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, eux, ils pouvaient l'atteindre à n'importe quel moment, dans n'importe quel acte d'adoration. Qu'ils prient d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'ils prient seuls, ils pouvaient l'atteindre, parce que le iman était exceptionnel, et ils pouvaient atteindre les objectifs qu'Allah nous accorde, la possibilité donc d'avoir ces qualités durant ce mois béni. Et vous savez, toutes ces qualités qu'on a citées là, mais la hikmah d'Allah, elle est ajiba, elle est exceptionnelle. Toutes ces qualités, on les retrouve dans le mois béni de Ramadan, dans les a'mal, dans les actions de Ramadan, dans ce tazkiyah. Parce que ces a'mal nécessitent, ces actions intérieures, nécessitent une purification intérieure qu'on retrouve exclusivement, et on va dire de façon, pas exclusivement, de façon complète, intégralement dans l'accomplissement du jeûne du Ramadan, où l'homme se dévoue à son Seigneur, il est sincère, il recherche le contentement divin, il enlève de son cœur tout attachement à ses besoins primaires pour mettre dans son cœur l'amour d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah donne la possibilité donc de développer ses qualités. On va dire que c'est une introduction qui est sortie un peu du sujet, mais qui à mon sens est essentielle et est nécessaire, hein, parce que on enchaîne, on se rend compte qu'on enchaîne le Ramadan. Alors, on est en 2019, on se rappelle encore du thème qu'on avait abordé l'année dernière, il y a 2 ans, on se rend compte que le temps passe très vite. Effectivement, on enchaîne les Ramadans, on enchaîne les Eid, mais nous devons être ces croyants qui, d'année en année, progressent. On ne doit pas être ce mu'min qui, lorsque le mois de Ramadan arrive, il y a tout un changement dans sa vie, il y a plein d'objectifs, il y a un changement dans son rythme de travail, dans son rythme de sommeil, ainsi de suite, et dans le mois béni, il se donne à fond. Mais quand le Eid est terminé, ben c'est là qu'il revient à un rythme ordinaire et classique. Aucunement. Il ne faut pas qu'après le mois de Ramadan, je plie mon musalla de tahajjud. Non. Il ne faut pas qu'après le mois de Ramadan, je range mon Coran et que je le reprends l'année prochaine. Non. Il ne faut pas qu'après le Ramadan, je reviens vers mes lectures classiques de Yassine le matin, Kahaf le Jum'a et Tabarak al-Ladi le soir et éventuellement le Waqi'a entre Maghrib et Isha. Non. Il faut qu'après le mois béni, toutes les bonnes actions, bi'idnillahi wa tawfiqihi, que j'ai eu l'occasion d'accomplir, on continue à les garder et on ne doit jamais lever le pied. Parce que le mu'min se reposera quand son âme aura quitté ce monde. Et des fois, on se dit que oui, il faut y aller doucement, il faut prendre un peu de temps pour ça. Oui, trouve le juste milieu, mais sache que le repos, c'est le repos dans la tombe. Dans la tombe, on aura amplement le temps de se reposer, inshallah, et du coup de jouir et de bénéficier de nos actions et des actions de nos enfants et de nos petits-enfants et de cette fenêtre qu'Allah ouvrira pour nous dans la tombe et de ce qu'Allah nous accordera, inshallah. Mais pour le moment, c'est al-amal. Pour le moment, on doit s'efforcer à accomplir des bonnes actions. Et une des actions qui est à mi-chemin, on va dire qu'il y a 80% pas à mi-chemin, mais qui est en grande partie dans le cœur, qui fait partie des actions intérieures, mais qui se manifeste, hein, par la parole bil-lisan et bil-jawarih et par le gestuel, c'est justement al-istighfar, la demande de pardon à Allah Azza wa Jal. Et c'est le thème de notre intervention aujourd'hui, inshallah, qu'on a intitulé bi-idnillah, un pardon divin qui dépasse l'entendement humain. On a tenu à ce que dans l'accroche donc du sujet, il y a une partie du divin et une partie de l'humain, pour qu'on réalise que le pardon, c'est un lien entre moi et Allah Azza wa Jal. Pour qu'on réalise que le pardon, ça ne se résume pas à dire par exemple 1000 fois Astaghfirullah, Astaghfirullah en une nuit. Ça ne se résume pas à lire 2000 fois les nuits impaires, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni, même si c'est la meilleure des du'as que le prophète a enseigné à cette umma durant les nuits impaires. Ça ne se résume pas à une simple lecture. Quand on demande le pardon, c'est une action qui est maqsouda, un ibadah qui est ciblé. Et il y a une partie qui découle, qui ressort de moi. Et cette partie, elle va se baser sur 2 choses. Sur mon cœur, sur ma langue. Et ensuite, on va dire par la suite, sur mes actions qui vont authentifier, qui vont confirmer ce que j'ai dit ou qui vont aller à l'encontre de ce que j'ai dit. Et l'autre partie, c'est ce qui appartient à Allah Azza wa Jal. Et nous, très souvent, on pense que le pardon, ben, c'est moi qui demande. C'est-à-dire, on se cantonne sur deux extrêmes. Que le pardon, soit c'est ma demande uniquement, et du coup, on va occulter la partie qui appartient à Allah, et par rapport à ça, on ne va pas développer un grand espoir en Allah. Et c'est ce qu'on aimerait développer aujourd'hui, Inch'Allah. Ou alors, on se dit que le pardon, c'est quelque chose de vague, qui se limite à une formule, je dis, astaghfirullah, et puis Allah, na'oud billah, c'est Allah qui connaît. D'une certaine façon, c'est Allah qui connaît chacun, et les péchés qu'il y a dans mon livret de compte, ben Allah va bien voir, et il le voit tout le temps, Allah connaît et il va pardonner ce qu'il y a. Non, le pardon, c'est quelque chose qui est précis. La demande de pardon, c'est quelque chose qui est ciblé et qui est précis. Ça veut dire que la demande de pardon que Ibrahim va faire, et que Adnan, et que Ibn Moussa, et que Abdallah va faire, elle ne sera pas pareille. La formule sera peut-être la même. La base, comme on a dit, la partie qui vient de mon cœur, elle doit être vraiment présente, mais elle sera présente à partir du moment où, là, on revient vers Amalul Qulub, mon iman en Allah est très fort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans mon cœur, il y aura un i'tiraf bidhunub, une reconnaissance de mes erreurs qui sera puissante. Là, cette demande de pardon sera puissante. Et cela découle du verset, قال رب العزة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Sens du verset, ceux qui, lorsqu'ils ont accompli des péchés ou ils se sont fait du tort à eux-mêmes, parce qu'il ne faut jamais oublier que quand j'accomplis un péché, je fais du tort à moi-même. Je me cause du mal donc à moi. Quand j'accomplis un péché, cela n'affecte aucunement Allah Azza wa Jal. Il faut être clair. Cela ne diminue en rien la lumière de son dîn. Cela ne remet en question rien de l'organisation d'Allah Rabbul Azza. Quand j'accomplis un péché, quand je me laisse aller vers des paroles futiles ou une action qui n'est pas appropriée, et ainsi de suite, c'est moi qui en paie les conséquences dans ce monde et qui aura en réponse le jour de Qiyama. Ainsi, là, on a de ce verset, et ça fait partie des versets, on va dire, de réaction de foi. Et ces réactions de foi, c'est ce qui nous manque très souvent. Ça, c'est la première, en fait. C'est quand on roule sur une voiture à boîte manuelle, c'est la première qui te permet de démarrer, de prendre conscience, de faire le lien entre ce que tu accomplis et les conséquences de ces actions. Et s'il n'y a pas ça, n'essayez pas de démarrer en cinquième, vous aurez le bruit du moteur. Vous aurez un vombrissement, un bruit impressionnant, mais la machine n'a pas démarré, elle est sur place, elle est la même. Et les savants disent que ce genre de versets, c'est les versets qui nous permettent de démarrer notre demande de pardon. Et la première étape qui a été citée de ce verset, que les personnes qui, quand ils ont accompli un péché, « dhakarullah », ils pensent à Allah. C'est-à-dire qu'ils se souviennent qu'il y a un Seigneur qui est « muttali'un alayh », qui est au-dessus de lui et qui est en train de l'observer. C'est qu'on est en train, on prend conscience qu'il y a un Rabb qui est Samir et qui est Basir, qui entend, c'est-à-dire qui entend tout, et qui est Basir, qui voit le péché, et qui est Alimum bidhat as-sudur, et il sait ce qu'il y a de nos poitrines. Ainsi, je ne peux rien cacher à Allah. Je peux cacher tout à tout le monde. Et ça, c'est une phrase qu'on dit tous les ans. On peut cacher notre Dieu à n'importe qui. À notre molissab, à nos parents, à notre épouse, à nos enfants, et avoir un déguisement de musulman toute l'année, et au plus profond de soi, être, na'oud billah, un hypocrite, un munafiq, ou alors avoir des doutes, na'oud billah, nasallahu alayhi wa sallam, mais on ne cache rien à Allah, Rabbul Izza. Ainsi, la réaction du mu'min, c'est quand il a accompli un péché, la première étape, c'est, il pense à son Seigneur, il dit, aïe, là, j'ai mal agi. Et là, Allah sait ce que j'ai fait, il m'a vu, il m'a entendu, et il sait comment j'ai cogité dans mon cœur, et qu'en finalité, j'ai fait le mauvais choix. Le choix d'assouvir mes passions, d'aller vers mes pulsions, et d'oublier, et de faire passer ces passions avant la pensée d'Allah. Dhakarullah, fastaghfaru li dhunubim. Et le fa, c'est le fa d'enchaînement, et il demande pardon à le Seigneur. Cette première étape, elle est essentielle parce que c'est une étape qui se passe, c'est une étape qui est silencieuse, qui précède le istighfar, le tahajjud, les du'as, les adhkar. C'est quand le mu'min reconnaît qu'il a un engagement et un devoir envers Allah et qu'il a eu un manquement dans son engagement envers Allah. J'ai manqué à mon wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, et donc je me dois de me rattraper. Et l'étape suivante, c'est quand les yeux se dirigent vers le ciel ou le cœur se dirige vers Allah Rabbul Izzah, et que le mu'min sait qu'il a au-dessus de lui un Seigneur. Là, il a pensé à Allah qui est Sami' Basir Alim et Alim Bidati Sudur. Maintenant, il sait qu'il s'oriente vers un Seigneur qui est Rahman, Clément, Rahim, Miséricordieux, Tawwab, qui est pardonneur, Ghafour, qui aime pardonner, ou Ghaffar, qui pardonne encore plus, qui est Sattar al-Uyub, qui cache les défauts et les péchés, et un Rabb qui est Latif, qui est bienveillant, et qui connaît également la situation de chaque individu, et qu'est-ce qui fait que je suis arrivé vers ce péché. Et voilà les deux parties. La première partie, c'est ma remise en question à moi, et qui est impératif pour la demande de pardon. Parce que si je ne me remets pas en question, et je me contente tout simplement de lire mon Hizb ou un Zam, ou je ne sais pas, n'importe quel autre livre, où on a réuni tous les ayats de Tawba, ben il manque quelque chose d'essentiel, il manque l'âme du Tawba, qui est la reconnaissance des péchés, et la reconnaissance du lien entre moi, le lien qui m'unit à mon Seigneur, et auquel j'ai causé du tort. D'accord ? Et la deuxième partie, c'est quand on s'en remet à Allah. Je sais que j'ai fauté. La partie en intermédiaire, c'est la demande de Tawba, le istighfar, et ensuite c'est ben, je m'en remets à Allah, mais j'ai confiance qu'Allah est capable de pardonner l'intégralité de ses péchés, parce qu'Allah est Ghafur al-Rahim. Et nous avons cet espoir, hein, ça c'était une petite partie de notre introduction, nous avons cet espoir donc en cette 27e journée du mois de Ramadan, et sans rapport avec le Tawba, nous avons trois espoirs qui habitent nos cœurs. Premièrement, c'est qu'Allah accepte nos actions. Ça, on a espoir qu'Allah accepte. Et en général, on a de l'espoir parce que très souvent dans ce mois béni, on accomplit des choses qu'on ne faisait pas, qu'on ne fait pas en temps normal. Le tahajjud, la lecture du Coran de façon intensive. Et il faut le reconnaître que, mashallah, de ce mois béni, on est là, on répond présent, alhamdulillah. Il ne faut pas à chaque fois tirer à boulet rouge sur la Oumma, ouais, on est mauvais. Non, quand on fait de bonnes choses, mashallah. Les masajids sont remplis, les gens sont présents, les gens donnent le monde, les gens participent. Ni'ma min Allah. Et tout ça, ça découle de la hidayah qu'Allah accorde à chaque mu'min durant ce mois béni. Donc on a espoir qu'Allah accepte parce qu'on est conscient qu'on est en train de faire des choses qui sont très intéressantes et qui sont exceptionnelles. Deuxième espoir qui habite le cœur de chaque mu'min en cette 27e journée de Ramadan, c'est j'ai l'espoir qu'Allah accepte tous mes doigts. Et là aussi, cet espoir, elle a raison d'habiter nos cœurs parce que jamais on ne fait autant de doa durant toute l'année que durant ces 30 jours. Très clairement, on fait plus de doa durant 30 jours que durant 330 jours de l'année. C'est comme ça. Parce que moi béni, il y a la guidée d'Allah, il y a la promesse de doa qui sont acceptées lors de la rupture du jeûne, il y a la promesse, mais ça c'est toute l'année, on ne le savait peut-être pas, que les doa sont acceptées lors de du dernier tiers de la nuit, ainsi le mu'min demande beaucoup de doa. Et le fait qu'on ait accompli quelque chose de façon intensive et qu'il y a eu un changement par rapport à notre situation initiale, ben on a cet espoir, je suis persuadé qu'Allah va accepter. Et on a raison, et on a besoin d'avoir de ce « husnul dhanni billah ». Cette pensée positive en notre Seigneur. Bien inconscient, celui qui fait doa, il dit, de toute façon, Allah n'acceptera pas. Lui, il a tout perdu, il a perdu son temps, en fait. Il a perdu, il a tout perdu. Et Allah accepte les doigts tant que le mu'min demande avec espoir. Et quand un musulman, à un moment donné, se dit que j'ai demandé da'out ou falam mustajabli, j'ai demandé, mais Allah ne m'a rien donné, là, Allah n'accepte plus. Là, Allah arrête d'accepter, qu'Allah nous protège d'arriver à ce yes, wala ta'asu min rawhillah, d'arriver à une situation où on désespère de la miséricorde. Aucunement. Quand on va sortir du sujet, mais quand on étudie la sirah, pensez-vous que le prophète a arrêté à un moment donné de demander du'a pour Abu Talib? Même s'il n'y a pas de hadith qui stipule que le prophète demandait du'a pour Abu Talib sabah et masa, mais mafhoum, ce qu'on comprend de l'attitude prophétique et de son désir de hidayah pour l'humanité, on est conscient que durant tout le vécu de Abu Talib, son oncle, qui était également son, entre guillemets, son protecteur, il n'est là, le prophète avait ardemment cette envie que son oncle trouve la guidée, jusqu'à ce qu'il aille à son chevet et dit « accepte dis au moins Allah est unique et après moi je vais voir le reste et vous faites au mieux. Mais Allah a décidé qu'il n'accepte pas cet épisode de la Sirat est connu. Je veux dire que les savants disent que le Prophète n'a jamais arrêté certainement de faire doua pour son oncle. Et pour différentes situations de la vie, le mu'min n'arrête jamais. Même si tu ne vois pas la concrétisation de tes invocations, ne désespère jamais. Sache qu'Allah est hakim et sage. Allah est adl, Allah est juste. Et Allah est latifun bi'ibadih. Allah est bienveillant envers ses serviteurs et il sait ce qui est bon. Et Allah sait ce qu'il a déjà prédestiné et ce qui va et ce qui entre dans son taqdir et dans sa sunna. On appelle ça sunnatullah dans l'organisation qu'il a prévu pour ce dunya. Ainsi, on pourrait donner d'autres exemples aussi, mais après on va dire qu'on sort un peu du cadre, mais le dîn est tellement beau, notre religion elle est tellement riche que chaque texte mérite qu'on s'y attarde et serait source de guider. On enseignait cet épisode de la Sirat aux enfants il y a quelques jours à la madrasa, lorsque, après la bataille de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti donc à la rencontre des gens de Taïf. On connaît cet épisode de l'histoire et qu'ils ont assiégé Taïf. Pourquoi assiégé Taïf? Parce que les combattants, ceux qui ont déclaré la guerre aux mu'mines, aux musulmans, qui ont provoqué la guerre, essentiellement c'était les Banu Thaqif, les gens de Taïf. Et quand ils ont vu que ils perdent des pieds, ils se sont réfugiés à Taïf. Taïf était une ville fortifiée. On ne pouvait pas rentrer à Taïf. Quand ils fermaient les portes et tout, c'était blindé. Et le siège a duré plusieurs jours. Et à un moment donné, le prophète a dit aux musulmans, maintenant on rentre à Médine, on va limiter les dégâts, on va rentrer, il y a eu des morts parmi les mu'mines, les musulmans, on rentre à Médine. Et certains sahaba étaient un peu frustrés, parce qu'ils étaient là depuis plusieurs jours. Et le prophète leur a dit, je vous accorde encore une journée, essayez et voyez. Et en commentaire, certains ulama de Sirat, des mu'arikhin, contemporains, ils disent que ne pensez-vous pas une seconde, ça c'est istinbat, ça c'est déduction des textes, ne pensez-vous pas une seconde que ces sahaba qui ont eu une journée en plus pour essayer d'assiéger Taïf et de faire chuter cette ville, est-ce qu'ils n'avaient pas fait intensément doua avec Allah pour demander à Allah son aide? Ils l'ont fait, mais quand ils ont vu à un moment donné que ce n'était pas possible, ils se sont soumis à la volonté d'Allah. Et ça c'est essentiel dans le doua, demande avec conviction, demande avec cette niaque spirituelle, avec ce wa'iyyaka nasta'in qu'on doit développer, et c'est auprès de toi que nous cherchons secours et refuge. Crois fermement à ton Seigneur, et tout ça c'est iman billah qui est qawi. Ta confiance en Allah sera forte et sera solide. Et quand tu as demandé, tu t'en remets à Allah, et c'est Allah qui décide. Il est alim, il est latif, il est hakim, comme on a dit. Et après la demande, ce qu'Allah a décrété, tu te soumets à la décision divine et tu dis que ça c'est la décision d'Allah et j'accepte. Vous voyez, l'approche du doua, si elle est traditionnelle, on demande doua et on fait comme ça. Et le pire, si le doua sont limités au doua du Molissab, là c'est terrible. Là. Si quand Molissab fait doua, on dit amin, et quand il fait pas doua, on fait pas doua. C'est qu'on est passé à côté de al-ibada, al-doua. C'est l'acte d'adoration, c'est-à-dire par excellence, où le mu'min, pourquoi c'est l'acte d'adoration? Il y a une version qui dit mukhna ibada, mais c'est une version qui est un peu moins authentique. Pourquoi est-ce que le prophète dit que ad-du'a huwa al-ibada? Parce que quand tu fais le du'a, tu vas lier ton cœur à ton Seigneur. Il y a une connexion divine, une connexion avec Allah, où tu exposes à Allah tes besoins, tes faiblesses, tes manquements. Tu t'en remets à lui et tu attends son retour. Il y a une connexion. Maintenant, si mon doua, c'est quand l'imam dit Rabbana Adina Abdina dit Amin, 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 et quand c'est fini, des gens, je vais vraiment dire quoi très clair, on va rentrer dans un jeu de bid'a, très clairement, et on aura à en répondre. On aura à en répondre. Parce que si on a instauré quelque chose de régulier et que la jama'at fait doua que avec l'imam et rien d'autre, c'est qu'on a instauré quelque chose que l'al-Habib n'avait pas instauré. Et deuxièmement, on passe à côté d'un amal qalbi, d'une action intérieure qui doit permettre aux musulmans de décoller spirituellement. Et ce doua, si on a un doua qui est fort, on aura une salah qui sera forte, on aura une zakat qui sera puissante, on aura un hajj, un tawaf, un sa'i qui sera puissant. Parce que le doua huwa al-ibada, c'est l'acte d'adoration par excellence. Ça te permet de construire ton lien avec Allah. Et les savants disent que le temps que tu passes dans le doua, hadha dalilun ala istislamika lillah. Le temps que tu passes, que tu es prêt à passer dans les doigts, mais je dis bien les doigts personnels, pas les doigts par cœur, les doigts où tu parles à ton Seigneur, tu communiques avec Allah, c'est une preuve de foi en Allah et de soumission à Allah. Ça veut dire que tu y crois très clairement. Quand tu passes 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes de doigts sans te rendre compte que le temps est passé et que tu arrives à converser avec Allah, lui dire tout ce qui est lourd sur ton cœur, tout ce qui pèse, tout ce que tu aimerais voir exaucé, tout ce qui te fait mal, tout ce que tu aimerais voir éloigné de toi, tes attentes et ainsi de suite, c'est que tu sais que Allah est en train de t'écouter. C'est que dedans il y a iman billah, il y a cette conviction qu'Allah est là, qu'Allah est avec nous et qu'Allah est en train, qu'Allah est attentif à ma demande et que wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb. Qu'Allah est proche. C'est qu'on ressent ce ma'iyya, cette proximité avec Allah. Et mes chers frères, ça n'a pas de prix. Ça, c'est le béaba de iman billah. Ce ma'iyyatullah, cette conviction qu'Allah est avec nous, qu'Allah nous entend, mais c'est ce qui fait que le mu'min deviendra un jour muttaqi. C'est-à-dire qu'il n'oubliera jamais son Seigneur. Il n'oubliera jamais son Seigneur parce qu'il ressent cette présence d'Allah, cette connexion avec Allah Azza wa Jalla. Donc parmi les points qu'on aimerait voir et concrétiser durant ce mois béni, ben c'est qu'Allah accepte nos doigts. Et ça, on a espoir, comme on a dit. Et le troisième point qu'on aimerait voir et concrétiser durant ce mois de Ramadan, c'est qu'Allah pardonne nos péchés. Mais ça, par contre, on est un peu moins rassuré. Très souvent, quand on a demandé pardon, on n'est pas très rassuré. Pourquoi ? Parce que chacun connaît son parcours. Et je sais pertinemment que l'année dernière, j'avais demandé pardon pour les mêmes péchés. Et que j'avais réussi à m'en défaire durant le mois béni. J'avais réussi à m'en éloigner le jour de Eid. Et quelques jours après le Eid. Mais quelques jours après le Eid, j'ai replongé. Et je suis revenu vers les mêmes péchés. Et arrivé au mois de Shaaban, s'il m'était possible de retirer mon livret de péché et de faire un bilan, ben j'aurais retrouvé les mêmes péchés ben, tous les mois de Shaaban. C'est-à-dire que les péchés, ben, je demande pardon à Allah pour ses erreurs, pour ses manquements, mais je n'y arrive pas. Après le mois de Ramadan, au fur et à mesure, Shaitan gagne du terrain et il me fait glisser progressivement vers les mêmes erreurs. Et en finalité, d'un Ramadan à l'autre, d'un début de vie, c'est dramatique de le dire, à une fin de vie, en fait, ben, je n'ai pas progressé. Wallah musta'an. Je n'ai pas progressé. Et si on analysait mon livret de compte juste avant de mourir, on se rendrait compte que j'ai les mêmes péchés que j'accomplissais depuis que j'étais baligh, ou depuis que j'avais 20 ans, depuis que j'avais 30 ans, et que je n'ai pas réussi le iqla', à me débarrasser totalement des ma'ansi et des dhunoub. Et ça, c'est quelque chose de pesant, c'est quelque chose de dramatique, et c'est quelque chose que on ne doit pas vivre. On doit retourner vers Allah sans péché dans nos livrets de compte, parce que tellement Allah ouvre pour nous un des portes d'acceptation, deux des fursa, des moments où on peut trouver le pardon divin. Il y en a tellement que le mu'mine qui quitte ce monde avec des péchés, c'est que c'est une personne qui n'a pas réellement recherché le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Jamais une umma, une communauté n'a eu autant de possibilités de retourner vers Allah et de trouver le pardon divin comme la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons qu'à analyser la nuit du destin, Laylatul Qadri, khayrun min alf shahr, qu'aucune communauté avant nous n'avait eu, pour réaliser que ce qu'Allah nous accorde comme possibilité de retourner vers lui, c'est tout simplement unique dans l'histoire des adhyan, dans l'histoire des révélations. Donc je doute de mon taouba parce que au plus profond de moi, je me demande, est-ce que je suis vraiment sincère envers Allah? Je me demande, est-ce qu'Allah m'écoute encore quand je demande pardon? Parce que je suis en fait un récidiviste. Je retourne vers les mêmes péchés. Même si à l'instant T, je n'ai pas l'intention. Hein. C'est pas que là, je demande pardon parce que, je donne un exemple, parce que je travaille de façon illicite avec telle banque ou tel organisme de crédit, là je dis ah, pardon, je vais arrêter. Je ne me suis pas dit intérieurement que de toute façon après le Ramadan je reprends les contrats. Non, mais je finis par retomber parce que c'est comme ça. Et je finis par me dire, mais comme je suis récidiviste, est-ce qu'Allah continue à m'écouter? Est-ce que, si on dit en grec, est-ce qu'Allah il fait encore un compte avec moi, ou à un moment donné, Allah nous m'a classifié parmi les fasiqs, parmi les pécheurs endurcis, du coup, Allah ne m'écoute même pas. Na'oud billah. Attention à ce que ces mauvaises pensées envahissent les cœurs. Parce que le présent, on peut avoir une idée globale du présent, mais le futur, on ne peut pas dire que c'est sûr que je vais retomber vers le péché. Tout, et c'est là qu'on s'en remet à Allah. C'est une question, la demande de tawba doit être accompagnée de doua, de hidayah, pour qu'Allah nous donne la fermeté de ne pas revenir vers les péchés. Ça, c'est une parole de conclusion, mais je le dis tout de suite parce qu'on va conclure bientôt. Le croyant doit sans cesse se poser les questions, et ça, c'est très important, de se demander à l'instant T, quel est le regard d'Allah sur moi? Est-ce qu'à cet instant T, Allah m'aime? Est-ce qu'à ce moment, est-ce qu'Allah est satisfait de moi? Est-ce que mon niveau de iman est suffisant pour un retour vers Allah? Est-ce que si à l'instant, l'ange de la mort venait reprendre mon âme, est-ce que j'ai les qualités suffisantes pour répondre aux anges de la tombe? Est-ce que j'ai les qualités suffisantes pour que mon âme monte aux cieux avec le kafan de Nour et accepter, et le passage est autorisé par tous les malaïkas dans chaque ciel, et mon âme a les qualités pour se prosterner devant Allah, d'être agréé par Allah, de recevoir l'attestation d'acceptation d'Allah, et que mon âme revienne sur la terre pour les questions de la tombe et les autres étapes? Cette question et ce questionnement, c'est vraiment, ça doit être vraiment la préoccupation principale du mu'min. Si dans mon cœur, il y a une préoccupation qui dépasse celle-là, c'est que le iman n'est pas vraiment entré dans mon cœur. S'il y a une autre préoccupation qui m'envahit ou qui prend le dessus sur ce qu'on vient de dire, cette pensée permanente du regard d'Allah sur moi, c'est ce qu'on appelle le muraqabatullah, qui fait partie des actions intérieures, et de ce désir de se conformer aux ordres divins et de se demander à chaque instant comment est-ce qu'Allah me perçoit, est-ce qu'il est prêt à m'accepter maintenant? Si je n'ai pas cette pensée omniprésente, c'est que j'ai raté quelque chose de mon iman billah, et qu'Allah nous donne la possibilité de développer cette prise de conscience et cet iman billah azza wa jal. Donc le mu'min se doit de se poser des questions en permanence, mais ce questionnement ne doit pas remettre en doute et ne doit pas fragiliser son amal, son espoir en Allah azza wa jal. On ne doit jamais analyser, calquer le pardon divin sur le pardon humain. Parce que le pardon humain est limité. On a fait du tort à Soufiane, par exemple. Une fois, il me pardonne. Deux fois, il me pardonne. À un moment donné, il va dire que non, ben c'est bon. À un moment donné, il faut, voilà, on prend nos distances, c'est pas possible. Que ce soit la personne qui vous aime le plus au monde, ben, quelle que soit la personne, à un moment donné, le pardon humain a ses limites, et c'est quelque chose qui est tout à fait normal et que j'arrive à intégrer. Mais le pardon divin, lui, n'a pas de limite. Et on a besoin de voir 5 versets et 5 hadiths. C'est un peu prétentieux de dire 5 et 5, mais même si c'est un verset aujourd'hui et un hadith, ça nous sera, inshallah, profitable. La base dans toute chose, dans notre relation avec Allah, c'est laysa kamithlihi shay. Rien ne ressemble à Allah, rien ne lui est semblable. Ça concerne les noms, les attributs d'Allah, bien sûr, mais c'est également le relationnel, la sunnah d'Allah. Ce que moi j'ai intégré comme mode de fonctionnement de la société, à un moment donné j'ai honte. On me dit, mais ça vient gros tête. Mais ça ne va pas les revoir. Lui, il dit la même chose. Ma fille fait la même bêtise 5 fois. Mais il ne peut pas les revoir, mon patron. Ben, la roue arrive en retard. 4e fois, une semaine, à un moment donné, il va me jeter, et ainsi de suite. Ça, c'est nos acquis dans les relations au sein de la société. Ça, il faut faire table rase de tout ça. Quand on parle de la relation du mu'min avec Allah, Rabbul Izzah, ça se base sur les textes. Et les textes, on a besoin de les connaître, de les intégrer pour construire un husnu dhanni billah. À partir du moment où je construis une pensée positive en mon Seigneur, je vous assure, nos actes d'adoration vont changer, on va passer à un autre niveau, mais également mon espoir, mon raja et mon khawf, mon espoir et ma crainte d'Allah vont atteindre la réelle dimension qui est demandée au mu'min. Ainsi, le cœur du mu'min doit être convaincu que lorsqu'il demande pardon à Allah Azza wa Jalla, première règle, qu'Allah sait ce qu'il y a de son cœur. Allah connaît ta position. Allah connaît ta faiblesse. Allah connaît ton éducation. Ça, on expliquait ça à un groupe de lycéens il y a quelques semaines. dans des petits programmes qu'on faisait le matin, c'était très bien d'ailleurs, me dit que vous avez tous une éducation différente et un contexte familial différent. Entre celui qui a grandi auprès de Maman Hussein, Mashallah, avec une éducation religieuse, un cadre spirituel, ben, le mama, il est normal que le maman, Mashallah, il prend de bonnes habitudes. Husn al-tarbiya, une éducation correcte. Mais celui qui a grandi avec des parents divorcés, ou celui qui a grandi dans une famille reconvertie où un des deux n'était pas musulman, n'a pas accepté la foi, ou bref, dans un contexte qui était difficile et défavorable à mon émancipation spirituelle, mais il est normal que ce marmaïda, il n'a pas eu les mêmes chances et les mêmes acquis et la même tarbiya, et que son rapport avec le péché sera beaucoup plus complexe. Quand tes enfants ou tes enfants moulissables, regardez-nous, mais c'est pas ça qui marche droite, marmaïda. Quand enfants et tes enfants moulissables, pour eux, s'éloigner d'un péché, ben ça c'est normal, ça. Normal, parce que c'est mon éducation, c'est mon din, et j'ai grandi comme ça. Pour lui, c'est normal. Mais pour celui qui a grandi dans, on va dire, un quartier défavorisé, ou dans un bi'a, dans un milieu où le péché, c'était le quotidien, ben, cette personne qui a désobéi à Allah, ben, Allah, Rabbul Izzah, c'est pertinemment la différence entre celui-là et celui-là. Et ça, c'est très rassurant. C'est très rassurant parce que dans la vie de tous les jours, là, quand vous, le timing est fini, on avait prévu 45 minutes. On s'accorde 5 minutes de prolongation, Inch'Allah. Dans les relations avec les hommes, d'accord, quand je vais voir mon patron, par exemple, et que deux personnes arrivent en retard au travail, ok, on garde cet exemple, on a cité. Est-ce que le patron, il va essayer de chercher, savoir que non, ben lui, il est célibataire, donc il aurait dû être là à l'heure, et lui, il a 4 enfants, et son épouse, elle travaille, et donc il doit déposer les enfants à la garde. Mais on ne garde pas tout ça, lui. 8h, c'est 8h. L'heure, c'est l'heure. Et c'est logique. Autrement, la société, notre entreprise n'avance pas. Si on doit faire du cas par cas pour chaque point de notre organisation sociétale, on va dire, on n'avancera jamais. Mais sachez qu'avec Allah, ça ne se passe pas comme ça. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Et Allah est alim, on a dit, il connaît l'intérieur de chaque personne. Allah est latif et bienveillant. C'est-à-dire qu'Allah te prédestine ce qui est bon pour toi. Et donc, quand tu demandes pardon à Allah, ben, toi et l'autre personne, ils sont pas au même niveau déjà. Allah connaît son contexte qui, lui, était difficile. Je donne un exemple qui est encore plus parlant. Ce jeune qui a grandi à Makkah. Allahu Akbar. Il est né à Makkah, il a grandi à Makkah. Ou à Madina. Et celui qui a grandi ailleurs, ben, son rapport avec le péché, avec le fitna n'est pas le même. Et Allah sait pertinemment que celui qui grandit dans une ambiance de péché, ben voilà, c'est normal qu'il soit un peu plus entaché par ses ma'ansi. Et donc, certainement, et puis c'est Allah qui juge, hein, c'est dans les mains d'Allah, certainement Allah est beaucoup plus bienveillant envers celui qui a connu un contexte difficile, parce qu'Allah connaît son ahwal, Allah connaît sa situation. Et ça, par analogie, ça nous ramène vers la présence de connaissances religieuses et la présence de, et là ça va faire très mal, attaché à Mamay, la présence de versets du Coran. On est tellement fiers de l'Hufad al-Qur'an, on est tellement content. N'oublions jamais que le Prophète nous a dit que Al-Qur'an hujjatun laka ou alayk. Le Coran sera soit un atout pour toi, ou il sera contre toi, c'est-à-dire le jour de Qiyama. Ça veut dire que plus j'ai cumulé de versets dans mon cœur, hifdan wa ilman, plus j'ai cumulé de connaissances religieuses, plus j'ai un accès à la religion qui est facile, bah plus Allah attend un niveau de pratique. Allah attend un niveau plus élevé de pratique de la part de celui qui connaît, de celui qui mémorise, de celui qui a le ilm et qui accède à la connaissance que celui qui ne connaît pas grand-chose. Et ça découle des textes, des hadiths. Et donc comprenons que dans ma demande de pardon, mais n'oublie jamais qu'Allah connaît tes manquements, tes faiblesses, ton intérieur, le contexte, c'est-à-dire Allah te connaît. Bref, Allah te connaît. Et donc, ne rougis pas. Il y avait des chansons longtemps dans l'école des femmes. Si quelqu'un veut bien chanter, hein, les vieux connaissent ça, ne rougis pas, ne rougis pas. Tu es toujours, je sais plus quoi, bref. Ne rougis pas. Ne rougis pas, c'est les vieux qui sourient. Les jeunes ne connaissent pas ça. Les jeunes ne connaissent rien que comment on râle ça, je sais pas quoi. Enfin, des trucs totalement stupides. Et ne rougis pas par rapport aux autres. Ne développe pas de complexe, d'infériorité, parce que lui n'a plus grand barbe, lui n'a un statut, lui n'a telle chose, lui n'a telle. On n'est pas pareil. on n'est pas pareil. Dis pas pareil, on n'est pas pareil parce que Allah nous a fait différents avec des contextes différents. Et donc, quand on lève les mains, hein, ben, on ne connaît pas les deux mains levées, quelle est la plus puissante? Qui est-ce qui regrette vraiment avec sincérité ses manquements et ses péchés? Il y a une personne qui peut, deux personnes peuvent demander 5 minutes de doua au toit d'un même plateau lors de la rupture du jeûne. Mais l'autre là, et il paye pas de mine, hein, son barbe est un peu style escroc, et il n'a pas trop de fréquentation de la masjid, on connaît son passé, on connaît son viritouané, comme dit son tchakkar, on connaît son, sa vie en dehors du mois de Ramadan, mais quand il demande pardon pour son 11 mois de zinan, hein, même il dit que son cœur arrache. Son cœur, s'il pouvait se décrocher, il se décrocherait. Tellement il regrette intérieurement, il se dit comment m'en arrive là, ya Allah, comment m'a parti aussi loin, là je suis dans la masjid, je fais taravih, j'écoute les durous et ainsi de suite, comment je suis bien. Et c'est quand on est bien qu'on se rend compte qu'on était mal avant, parce que quand on reste dans un siècle vicieux, on tourne en rond et on ne se rend même plus compte à un moment donné qu'on est dans le péché. Mais c'est quand on est dans un contexte spirituel et favorable qu'on se rend compte qu'on a fauté. Et là, on se dit, mais comment? Et ça, c'est une des bases du taouba, un nadam, les remords. Et il n'y a pas plus grande hidayah de la part d'Allah que les remords. Qu'Allah te permet de regretter tes erreurs, ça, c'est la première porte de guidée qui s'ouvre à toi. Et quand tu ressens cette douleur intérieure et cette tristesse et ce mal d'être, comment est-ce que j'ai pu arriver à là? Ah, c'est que Allah est en train de te ramener vers lui. C'est que tu as fait un premier pas. Et ça, c'est un des hadiths de conclusion. Celui qui fait un hadith connu. Celui qui fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers lui. Celui qui vient vers Allah en marchant, en rampant, il me semble, Allah vient vers lui, harwala, en courant. Ce sont des textes, on va imaginer. Quand quelqu'un fait un pas vers Allah, tu essaies, tu montres à Allah ta bonne volonté, Allah t'ouvre deux fois plus de portes et il te donne le tawfiq wa sadad wa l'istiqama, il t'accepte. Et donc, ikhwani fillah, quand je reviens à cette première fikra, cette première règle dans la demande de tawbah, il ne faut pas rougir, il ne faut pas avoir honte de se présenter devant Allah, ne pense pas immédiatement au futur. Dans ton cœur, fixe les bonnes intentions. Ya Rabb, pendant 11 mois, j'ai regardé tout ce qui était haram à la télé, sur mon portable, dans la rue, et j'ai fait la bise à toutes mes collègues, j'ai fait telle bêtise, j'ai emprunté, j'ai fait, j'ai volé, j'ai détourné, j'ai menti, j'ai trompé, ainsi de suite. J'ai fait tout ça. Ya Allah, tawba, avec les conditions qu'on a essayé de citer. Mais ya Allah, j'ai fait l'intention, cette fois-ci, c'est terminé. Et essaie d'être sincère avec, sois sincère avec ton Seigneur, et essaie d'être le plus sincère envers toi. Et le reste, là, le futur, c'est une question de hidayah. Et la hidayah est dans les mains de qui? Elle est dans les mains de qui? Elle est dans les mains d'Allah. Donc, n'aie pas honte de redemander le même tawbah tous les ans. Et n'oublie pas que tu te confies à ton Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui est unique dans l'islam, ça. Qu'on se confesse à notre Seigneur uniquement. On ne va pas voir un molissab ou un mufti vous dire, voilà, j'ai fait telle erreur et tout. Aucunement. C'est-à-dire que nos erreurs, c'est entre nous et Allah. Notre ibadah, c'est entre nous et Allah. La relation, d'une façon générale, c'est entre le serviteur et son Seigneur, et c'est direct. Et on n'a besoin de personne pour interférer. On a besoin des gens pour nous aider. Le alim qui va nous donner des conseils, qui va nous aider et nous guider, nous donner des bases de guider. Mais la relation, en finalité, elle est entre nous et Allah Azza wa Jal. C'est pas parce que mon papa, il appelle Moulissa ben tel, ou que je suis le fils d'un tel, que j'ai jannat, aucunement. C'est vraiment ma relation avec Allah, Rabbul Izzah. Deuxième règle dans le pardon divin, ça rejoint un peu, on a fusionné, là on fusionne, en fait, comme on n'a pas beaucoup de temps. Le pardon divin ne se base pas uniquement sur notre demande et nos qualités et notre persévérance. Non. Autrement, personne n'aurait mérité le pardon. Non, ce pardon divin, ça se base pas uniquement sur ce que je formule ou le temps que je passe dans la nuit à demander tawba. Non. C'est une partie qui me revient et le reste c'est dans les mains d'Allah Rabbul Izzah. Et une analogie, un qiyas, pour qu'on comprenne que la relation qu'Allah a avec ses serviteurs, elle est totalement décalée avec tout ce que nous pouvons imaginer, qui dépasse l'entendement humain. On prendra un exemple qu'on a bien intégré, c'est la rétribution divine. Le thème, c'est le pardon divin. Le pardon divin, c'est une relation entre Allah et nous. Comment Allah décide de nous pardonner? La rétribution divine, c'est une relation entre Allah et nous. Comment Allah décide de nous rétribuer? On a Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Et 1000 mois, ça fait à peu près 83 années. Les savants disent que cette récompense qui a été révélée, cette rétribution, elle peut parfois heurter la faiblesse de foi de certaines personnes qui vont finir par se dire « Attends, c'est pas concevable. Dis-moi une nuit égale 10 nuits. Dis-moi une nuit égale 100 jours. Mais une nuit égale 83 années de rétribution, c'est ce qu'on appelle dépasser l'entendement humain. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer et concevoir. Et si quelqu'un a une foi qui est un peu bancale et qui n'a pas les bases qu'il faut, il peut se dire que non, ben ça c'est des textes, là c'est de l'exagération, ou c'est des images, ça extrapole pour qu'on s'accroche aucunement. Quand Allah nous promet une rétribution que Al-Fishar, c'est avec iman et yaqin et conviction, وَبِلْ آخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ et بِوَعْدِ اللَّهِ conviction en la promesse d'Allah, qu'Allah est capable de nous donner autant. Et que si dans ma vie, depuis que je suis baligh jusqu'à ma mort, j'ai fait 50 Ramadan et j'ai eu donc 50 buts du destin, ben 50 fois c'est 83, ça fait 4150 années de bonnes actions. C'est des chiffres qui sont extraordinaires. J'ai vécu 80 années et je me présente devant Allah avec déjà une base de 4150 années de ibadah, plus les actions que j'ai faites durant les 359 autres jours de l'année, c'est-à-dire en dehors du mois du destin, en dehors de la nuit du destin. Vous voyez ? C'est-à-dire que tout ça, ce sont des chiffres qui nous dépassent. Mais ça, les savants disent que c'est pour qu'on ait un aperçu de la générosité d'Allah. Ne pense pas qu'Allah rétribue comme toi tu rétribues tes semblables, tes enfants, ta femme ou tes employés, ou tu récompenses les créatures comme toi. Ça, c'est les relations humaines. Quand Allah rétribue, c'est un autre niveau. Et voilà un exemple, ayyuha al-mu'min, de la rétribution divine qui est basée sur quoi ? Sur al-karam. Le fait qu'Allah soit al-karim. Allah est le généreux. Et sur le fait qu'Allah est al-ghani, celui qui est riche, une richesse qui n'a pas de limite. Moi, je peux donner, si je donne une somme d'argent à un employé, je ne peux pas en donner autant à 20 parce que ma poche, elle est limitée. L'image. Mais le trésor d'Allah est inépuisable, sans limite. Donc, dans cette rétribution, on se raccroche au nom d'Allah qui est Al-Karim et Al-Ghani. Et là, on essaie de réaliser comment est-ce qu'Allah rétribue. Ben, pareil, alayha Al-Qiyas, sur cette rétribution, par analogie, tu dois déduire comment est-ce qu'Allah est capable de pardonner. Son pardon est sans limite. Son pardon ne se limite surtout pas. Alors, il faut faire très attention à l'opinion des makhloukat, à l'opinion que les gens ont de moi. Ça, c'est un des points qu'on devait citer. On fait un gros carré mélange, si vous voulez, une grosse synthèse. Notre demande de pardon ne doit jamais se limiter, se heurter au regard de la société sur moi. Oublie le regard des gens. Ne pense surtout pas que voilà, de moins ça avoir moins via masjid la nuit du destin, il s'est pensé que il connaît que en temps normal, mais il fait quoi? Et ils connaissent que après Ramadan, en général, on retrouve de nouveau tel endroit. Oublie tout ça. Pour le moment, c'est entre toi et Allah. Pour le moment, c'est une chance qu'Allah te donne. Saisis-toi de cette chance. Comme Allah a accordé à toute la Ummah, et oublie ce que les gens peuvent penser de toi. Ainsi, parmi les versets, il y en avait 5, on citera un seul. Parmi les versets qui doivent construire, on n'a pas parlé du Tawbah. Parce que parmi du Tawbah, il y a plusieurs approches. On peut dire qu'est-ce qu'un Tawbah ou Nasuha, quelles sont les conditions à réunir, c'est-à-dire des sujets qui sont classiques. Nous, on a voulu essayer de comprendre quel est le concept du Tawbah, du pardon divin, de la demande de pardon et de l'acceptation, donc, et du pardon divin, et comment est-ce qu'on doit avoir un espoir sans limite dans le pardon divin et ne jamais, un, se cantonner à nos faiblesses, ni au regard des gens, ni au temps qui passe et nos erreurs qui se répètent. Fais table rase de tout ça, de ce que tu sais de toi, de tes erreurs passées, du regard des gens, et tu es en haut au-dessus de toi, Al-Ghafur et Al-Rahim, Al-Tawwab, Al-Sattar, Allamul Ghuyub. Tu as au-dessus de toi ton Seigneur qui est Rahman, Rahim, qui est clément, pardonneur et miséricordieux, et il est capable de t'accorder un pardon qui est immense. Parmi ces textes, on va juste citer les textes. Après, charge à vos référents un jour de faire les tafsirs de ces textes. Quand Allah Rabbul Izzah parle de Nuh alayhi salam dans l'histoire, justement, de la sourate Nuh, Allah Azza wa Jalla révèle فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Et donc traduction, Nuh a dit à son peuple, implorez le pardon de votre Seigneur car il est غَفَّارًا. C'est un sayra, c'est une formule pour montrer l'insistance. Allah est grand pardonneur. En commentaire à Sa'di, rahimahullah, explique dans ce tafsir et d'autres mufassirines également que Allah cite, bon, bien sûr c'est la sourate Nuh, mais on prend cet exemple pour réaliser que Allah promet qu'il est grand pardonneur à des gens qui, premièrement, l'ont désobéi par quel péché? Quel péché? Quel est le péché qui a distingué le peuple de Noé? Le shirk, oui ou non? Le shirk est apparu à l'époque de Nuh alayhi salam. C'est-à-dire qu'Allah promet qu'il est grand pardonneur à des gens qui ont fait le shirk. Est-ce que j'ai fait le shirk moi? Non, et qu'Allah me protège. C'est-à-dire que donc, en niveau de gravité de péché, je n'ai pas atteint la gravité des péchés du peuple de Noé. Et Allah promet que s'ils demandent tawbah, ils reviennent vers le tawhid, Allah pardonne ces années, ce mudda, cette période de le péché. Premier élément. Deuxièmement, la désobéissance, la prêche de Nuh alayhi salam a duré combien de temps? Alfa sanatin illa khamsina ama. Ça fait combien d'années? 950 années de da'wa. Et après 950 années, combien de personnes ont accepté le din? Très peu de gens ont accepté la da'wa de Nuh. Alors que nous, on invite des gens en public, en privé, et ainsi de suite. On connaît l'histoire et la persévérance de Nuh alayhi salam. Deuxième enseignement qui est riche et qui me réconforte, qui me rassure. On a besoin d'être rassuré. Il ne faut pas qu'on ait des gens qui toujours nous pointent des doigts. Attention au goût des gars, attention là-haut, l'enfer et tout. Hey, reste tranquille. C'est pas toi qui décides du paradis et de l'enfer, premièrement. Deux, tu n'es pas supérieur à moi. Trois, ton statut ne fait pas que tu puisses décréter que je suis bon ou mauvais. Et troisièmement, au-dessus de nous toute l'un, il y a Allah. Et Allah, il ne regarde pas que Ibrahim, qu'est-ce qu'il fait. Allah, il connaît le cœur d'Ibrahim. Et ses manquements, ses faiblesses, ses douleurs, ses souffrances, ses épreuves. Donc, Allah, il me connaît personnellement. Donc, rentre pas dans mon histoire. C'est entre moi et Allah. Et donc, pourquoi est-ce que ça me réconforte? Parce que de un, je n'ai pas fait le shirk. Alors, eux, ils ont fait le shirk. Et Allah promet qu'il est grand pardonneur s'ils reviennent vers lui. Et deuxièmement, ils ont désobéi Allah pendant 950, c'est-à-dire après 950 années où ils ont commis le pire des péchés, al-ishraq ou billah, Allah Rabbi Isa est prêt à leur accorder son pardon divin s'ils reviennent vers lui. Ça fait partie des versets qui nous réconfortent. Deuxième verset. وَإِنِّي, on est dans la sourate Al-Baqarah, il me semble, dans la sourate Taha. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Et je suis grand pardonneur à celui qui se répand, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le droit chemin. On ne peut pas développer, le temps ne nous permet pas, mais Ibn Kathir, rahimahullah, dit qu'on a là les bases du tawbah. Celui qui se répand, il a fait l'action, il croit, il développe son iman billah, il accomplit, c'est-à-dire après avoir demandé tawbah, maintenant il faut reprendre la bonne marche, il faut ramener une vie de bonnes actions. C'est pas juste demander pardon pour les péchés, maintenant il faut ramener les bonnes actions qu'on n'avait pas l'habitude d'accomplir, et qui se met sur le droit chemin. Ça veut dire que Allah t'accorde le pardon et Allah sait ce qu'il y a au plus profond de toi. Et ça nous permet de rétablir un peu l'équilibre, de nous ramener vers un juste milieu dans la demande de pardon. Quand on dit qu'Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur, oui, connaît nos faiblesses, nos manquements, circonstances atténuantes, oui, mais Allah connaît également quelles sont tes intentions. Si tu demandes tawbah, mais que dans ton cœur, tu n'as nullement l'intention d'arrêter ce péché définitivement. D'accord? Un exemple, je sors avec cette jeune fille qui est très belle et avant le mois de Ramadan, j'ai dit que non, on arrête, c'est Ramadan, il faut être sérieux et tout. Elle a fait la dernière bise et on s'est arrêté. Mais que tu demandes Tawbah à Allah depuis un an, il donne zina, depuis un an, il n'y arrête pas et tout. Demande. Mais dans ton cœur, et sur ton agenda aussi, il y a déjà le rendez-vous pris avec elle après Namaz, 10h, pour les grands retrouvailles. Il y a un problème là, oui ou non? Ça veut dire que tu n'as pas été sincère dans ta demande de pardon. C'est-à-dire que ce din, la ikhwani fillah, akhwati fillah, c'est une religion qui est cohérente. C'est pas une religion qui se base sur, des grands aspects spirituels, mais elle a plein un coup fort. Donne-moi de Ramadan, l'être le Qadr, et puis c'est bon. Non, il y a ça, c'est très bien, mais il y a le côté cohérent aussi. Quand on dit Allah connaît ce qu'on a dans le cœur, il ne faut pas prendre ça pour nous. Allah connaît quoi dans mon cœur? Mon cœur est propre. Mais tout le cœur est propre. Si t'es sale ou t'es fini, fait trois pompes. Quoi, pas ça? Trois ponctages. Si la vérité était bouchée ou t'es fini, atterri sur le cœur de l'homme. De tout est dit, notre cœur est propre. Oui, fais en sorte que ton cœur soit propre, mais n'oublie jamais qu'Allah scrute ton cœur. Et c'est le seul qui peut juger du contenu du cœur de quelqu'un. Personne n'a le droit de pointer du doigt, de juger, de se prononcer sur quelqu'un. Chose que nous aimons faire ça. Mais uniquement notre Seigneur. Et quand tu as demandé pardon à Allah Azza wa Jal, fais en sorte que dans ton cœur, tu sois convaincu et que tu aies pris, on appelle ça al-azm, l'intention ferme. Tu es ferme dans ton intention de te débarrasser de ce péché. Si c'était, pour regarder cet exemple, cette relation avec mon petit, Mouayassim, je ne sais pas pourquoi Mouayassim pense à ça, mon petit Kafrine, et dans ton cœur, tu te dis directement, c'est terminé. Tu lui envoies le WhatsApp ou le texto de machin, dis, écoute-moi, après Ramadan, on fait Nikah. Tu veux yam ou yam, frère? Ça veut pas dire yam pas. Mais dis qu'on fait Nikah, on va rendre ça halal, et même si papa, maman n'est pas trop d'accord, moi, lui aussi, arrange l'affaire pour moi, casse pas la tête, c'est mon Molissam. Fais l'intention al-iqla' d'arrêter le péché et d'aller vers le droit chemin. Mais si et là le tawba est accepté, inshallah. Parce que c'est un des piliers de tawba que d'avoir l'intention ferme de ne plus revenir vers le péché. Alors que si de ton cœur tu as déjà l'intention, le tawba n'est pas accepté. Le tawba n'est pas accepté et Allah est seul juge. Et maintenant, si après avoir fait l'intention ferme et que tu as pris toutes les précautions, à un moment donné tu as chuté, tu t'en remets à Allah et tu redemanderas pardon à Allah Azza wa Jalla. Il y a un hadith qui est très beau, qui est très beau. Il n'y a rien de pire que quand on ne garde pas le fil de l'intervention, parce que là on va dans tous les sens. Vous savez qu'on tourne beaucoup en tawaf, on est en mode tawaf depuis tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Il y a un hadith qui est beau, et moi j'appelle ça les hadiths de l'espoir. Les hadiths de l'espoir, si on se limite à un hadith, ce serait celui-là. Anna rajulan, hadith d'Aqba ibn Amr radiallahu anhu, de lequel rajulan, un homme, était venu voir le prophète, dit Ya Rasulallah, ahaduna yuznibu, au prophète d'Allah, si l'un d'entre nous accomplit un péché, qu'est-ce qui se passe? Le prophète me répond, yuktabu alayhi, ce péché est inscrit dans son livret de compte. Qal thumma yastaghfiru minhu wa yatub. Dit oui, prophète d'Allah, si après avoir accompli ce péché, il demande pardon. Oui, on est dans un raisonnement qui est très classique, là, très logique. L'être humain a toujours fonctionné comme ça. Et ça nous permet d'avoir un raisonnement cohérent. Voilà, j'ai commis ce péché, le sahaba a commis, il demande, qu'est-ce qui se passe s'il demande pardon? Le prophète dit, yurfar lahu wa yutabu alayhi. Ben Allah lui accorde son pardon et le péché est effacé. Et petite parenthèse, là il faut qu'on bombarde de parenthèses pour qu'on couvre le sujet. Quand Aïcha radiallahu anha avait demandé au prophète d'Allah, si je vis cette nuit du destin, quel est le doigt en lien? C'est quoi le doigt? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Les savants disent que, vous savez, les deux plus grands doigts de Tawba nous ont été enseignés par par l'intermédiaire de Abu Bakr et de sa fille Aïcha radiallahu anha. Et ça c'est fadlun. Et ça remonte, nous donne encore plus d'estime pour Abu Bakr et sa fille Aïcha radiallahu anha. Walau kariha al-kafirun. Abu Bakr a reçu Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira. Le doigt qu'on lit, le doigt de clôture. Il n'y a pas meilleur doigt de clôture et de demande de pardon que ce doigt qu'on fait de le tahajjud. De le tashahhud. Depuis qu'on est petit madrassa, on apprend à nous ça. Des fois, on dit, ouais, tout le temps le même, allons, on change un peu de doigt, change pas. C'est la sunna nabawiya. S'il y avait mieux, il y a d'autres aussi, mais ça c'est le meilleur. This is the best. Le prophète l'a enseigné à Abu Bakr al-Siddiq, c'est-à-dire au compagnon qu'il aimait le plus. C'est-à-dire que notre salut, il est dans ce Allahumma inni dhalamtu nafsi, à condition qu'un jour, m'y ouvre mon yeux et m'y commence à lire la traduction de Allahumma inni dhalamtu nafsi et j'arrive à décortiquer les différentes parties, le découpage de Allahumma inni dhalamtu nafsi qui est magnifique, qui nous permet de nous remettre en question et de comprendre à quel moment tu déclenches la demande de pardon. Ça intervient à la fin, alors que durant toutes les premières phrases c'était reconnaissance des péchés, soumission à Allah. C'est tout simplement, c'est construit de façon magnifique. Mes chers frères et sœurs, si on ne se fusionne pas avec nos textes, Coran, Hadith, Adi'iyya, Nabawiyya, qui sont des hadiths, on aura une approche trop superficielle du din. Et on aura une pratique trop superficielle du din. Ce qui donnera des ramadans intensifs et après rechute, comme un truc d'électrocardiogramme. Ça rechute. Et après un baklid spirituel intensif, peut-être pas, mais un bœuf intensif. Le bœuf le plus gros. 1 tonne 250. Et là, on a l'impression qu'on est devenu wali min awliya illa. J'ai acheté ce charolais qui est massif et donc je suis un bouzouk. Comme il mange, là, c'est vraiment un des hommes les plus pieux. Tu crois qu'Allah, il a besoin que ton bœuf pèse 1 tonne 250? Le bouc, là, acheté le petit cabri, 120 euros. Il trouve 150 euros cabri, si quelqu'un est venu dire ça. Si le bouc, là, acheté le petit cabri, 500 euros, il ramasse 3 euros tous les semaines. Des fois, le dimanche, il ne s'est pas acheté pain au chocolat. Il dit non, migante, un sacrifice. Et à la fin de l'année, il a réuni 180. Tu vois, contre la corde des livraisons, il a réuni 230 euros. Il dit, ya Rob, quand il coupe là, oh Allah, ça c'est pour toi, ça. Quel ikhlas, quel mujahada, quel sacrifice, quel amour pour Allah, quel don de soi, quel don de ses biens pour Allah. Il faut aller racler au fond, au plus profond de nous-mêmes. Ça, c'est al-ikhlas. C'est pas faire quelque chose avec 1000 feux d'artifice. C'est pas quelque chose de brillant et de magnifique. C'est quelque chose de profond et de puissant. Et donc, la partie loin de là. Et donc, on disait donc, qu'est-ce qu'on disait justement? C'est quand on connaît plus, c'est qu'il faut s'arrêter. Et donc, on disait qu'on a besoin, oui, de les deux doigts les plus puissants, c'est Allahumma dhalamta nafsi et Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, qui nous ont été enseignés par le biais de 1 d'Abu Bakr as-Siddiq et de 2 par l'épouse préférée de Al-Habib sallallahu alayhi wa sallam, Aisha radiyallahu anha. La personne dit que donc yughfar, le prophète dit que ben Allah lui accorde son pardon. Bien sûr, les savants disent en commentaire que si la personne a demandé sincèrement, avec toutes les conditions qui sont réunies, pas une demande superficielle, mais attention, ça vient d'un sahaba quand même. Quand un sahaba demande pardon, c'est du niveau, d'accord? Donc on comprend, c'est implicite que les conditions étaient réunies. Et là, le sahaba pose une autre question qui nous intéresse. Allez, je vais nous commencer mal là. Fayaoudou li dhambi. Il dit au prophète d'Allah, mais si après ce serviteur, il a recommencé, il a accompli le même péché. C'est-à-dire, il a demandé pardon sincèrement, il a pleuré, il a demandé pardon, il a arrêté, mais après il a rechuté, ce qui est le cas de nous tous, de la plupart d'entre nous. On a voulu, on était sincère, à un moment donné, notre faiblesse nous a rattrapés, on a chuté de nouveau, comme un enfant qui avance, qui chute, on le relève, il avance 10 pas plus loin, il va retomber. Est-ce que le papa dit, ou la tombe 2 fois, maintenant on sort d'eau. La hawla wa la quwwata illa billah. Un papa n'agit pas comme ça avec son enfant. Et le prophète, une fois, avait vu une maman qui est en train d'allaiter son bébé derrière un châle, près d'un feu, et dit au sahaba, est-ce que vous pensez une seconde que cette maman pourrait tout d'un coup tirer cet enfant et le jeter dans le feu? Elle dit, ya Rasulallah, jamais de la vie. Vous voyez la puissance des exemples, des métaphores et toute la pédagogie prophétique. C'est-à-dire, il te donne un exemple par rapport à un sentiment qui est partagé, qui est universel. Et sa voix, ça me dit que, ben, sachez qu'Allah vous aime plus. Allah, Allah, Allah. Allah vous aime plus que cette maman aime son bébé. Et nous, par rapport à ça, on n'a pas le droit de douter une seconde. Ainsi, demande ton pardon, mais sois sincère. Et après ce qui arrive, redemande. Et ça rabat dit le prophète, donc il recommence ce péché. Le prophète dit la même chose. Fayuktabu alayh. S'il a recommencé, ce péché sera inscrit de nouveau. Il n'a pas dit que sera inscrit 10 fois plus ou de façon irrévocable ou sera indélébile du tout. Yuktabu alayh. Même mot. Le péché est inscrit. Thumma yastaghfiru. Mais on voyait tout. Ensuite, il redemande pardon. Le prophète dit, yurfar lahu wa yutab wa alay. Il dit, s'il a recommencé au prophète d'Allah, le prophète dit que, s'il a recommencé, Allah lui accordera encore son pardon. Et il dit, wa la yamillullahu hatta tamillu. Et Allah ne se lassera jamais tant que vous ne vous lasserez pas. C'est-à-dire que tant que tu as redemandé pardon, mais avec sincérité, et que après tu as chuté parce que tu es un être humain, parce que tu as des faiblesses et que tu n'as pas pu résister et que c'est revenu, mais tu as redemandé avec cœur et sincérité, Allah t'accordera son pardon et cela ne s'arrêtera jamais. Iblis avait dit, oh Allah, je te jure, Iblis dit, oh Allah, je te jure que tant que j'ai jusqu'à la fin des temps, je vais les induire en erreur, je vais les dérouté du droit chemin. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Dunya, le dunya qui brille et te le fait voir de façon brillante et magnifique alors qu'il ne brille pas. La uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum. Wa la ughwiyannahum qui ça ajma'in, il s'est promis de dérouter de détourner tout le monde sans exception du droit chemin. Et Iblis avait dit, c'est un hadith, on le retrouvera peut-être, c'est le sens du hadith, et il dit que, oh Allah, je te promets, je fais la promesse de dérouter, de détourner. Et Allah dit que, et moi je fais la promesse de leur accorder le pardon tant qu'ils me demandent. C'est-à-dire, jamais le pardon d'Allah ne s'arrêtera. Tout comme Shaitan ne s'arrêtera jamais de te perturber dans ta relation avec cette fille-là, ou dans ta transaction commerciale avec cette banque-là, ou dans tes rapports avec telle, et ainsi de suite. Chacun connaît son péché. Shaitan ne te lâchera jamais. Il y a un doigt qu'on ne peut pas demander, oh Allah, détruis-moi Shaitan. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un of game. Il n'y a pas end of game dans ces trucs-là. Shaitan, il sera toujours là. Et son il sera toujours là. Donc, on ne se débarrassera jamais du diable. Le seul qui a pu s'en débarrasser, c'est qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que son qarin lui inspirait du bien. D'accord? Ça, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, sache que quand Shaitan a vu que ta faiblesse à toi, c'est l'intérêt, l'argent, la banque. Parce qu'il aime construire magasin. Il aime. Il en a un, il veut deux. Il en a deux, il veut un dépôt dessus maintenant. Il ne veut pas que ce dépôt la zone est là-bas. Il veut se dépôler juste là. Au moins, il n'a pas besoin de tirer le taux. Et donc, il emprunte. Il s'endette. Shaitan a repéré ta faiblesse, c'est l'intérêt. Shaitan a repéré qu'un tel, sa faiblesse, c'est les femmes. Ou que quand c'est une femme, sa faiblesse, c'est les jeunes hommes. D'accord? Ou Shaitan, parce que ça va dans les deux sens, hein, faut pas tout le temps dire ben bouglé, machin. Shaitan a repéré que lui, sa faiblesse, c'est, je sais pas moi, la nourriture. Il regarde pas halal, bon marché, il accepte, il mange, ainsi de suite. Bref, ou son péché, c'est relationnel avec sa famille ou avec ses parents, et que à chaque Eid, il pète un bataille. À chaque Eid, le gars, il perd patience. Alors qu'il est patient avec tout le monde, dans le chemin, dans le masjid, c'est le monsieur propre, d'accord? Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Mais avec la famille, il est insupportable. En fait, Shaitan diagnostique chaque personne, chaque dossier, et il connaît les faiblesses. Et sache que quand le diable a connu ta faiblesse, il ne te lâchera jamais. Et il continuera à t'attaquer par cette faiblesse et à pénétrer par cette porte. Et il ne te lâchera jamais jusqu'à ce que tu quittes ce dunya. Et donc, fais toujours très attention. Mais sache que Allah ne t'abandonnera jamais. Shaitan ne te lâchera jamais, mais Allah ne t'abandonnera jamais. Et que même si tu as répété les mêmes péchés pendant 50 ans, mais qu'à chaque fois avec sincérité tu as essayé de t'en débarrasser complètement, mais que tu as rechuté malgré ton ikhlas, mais par ta faiblesse, sache qu'Allah sera toujours là pour toi. Et on va clôturer par ces paroles. Il y en aurait tellement d'autres de versets, de hadith, mais qu'Allah nous vous permette de les découvrir, et qu'Allah nous permette à nous tous de nous renforcer spirituellement, pas uniquement par les bonnes actions. On a besoin de se renforcer mimbab al-ilm, la connaissance, ikhwan fillah. C'est ce qui va différencier les croyants. Quand on a un socle de ilm, de connaissance et de iman billah qui est solide, on voit la religion avec un autre regard. Notre rapport avec le dîn est différent. Ça ne va pas être comme on l'a dit de façon caricaturale. Ramadan à fond, après je chute. Bakrid, pourquoi on a dit le plus gros bœuf? Parce qu'on pense que c'est ça qui fait donner un bon musulman. Ou alors je fais hajj, et je vais le hajj le plus cher. D'accord? Donc j'ai donné 8000 euros, il arrive. Pour le hajj, donc j'ai fait une bonne action. Et après on retourne vers nos péchés, wallah musta'an, jusqu'à la prochaine, entre guillemets, grande nuit, où je vais faire plein de bonnes choses. C'est pas ça la vie du mu'min, c'est pas ça du tout. Celui qui pense que parce qu'il était au premier rang pendant un mois de Ramadan, 5 jours takbir oula, ça fait de lui un mu'min pieux, il se trompe totalement. Le mu'min pieux, c'est celui qui pratique avec istiqam. Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa inqal. Et on a besoin de ce istiqam. Inna ladina qalu rabbuna Allah thumma istiqam. C'est eux, tatanazzalu alayhim al-mala'ika. Il a akhir al-aya, qu'Allah nous accorde. On a besoin de ilm, on a besoin de iman, on a besoin de basira, de clairvoyance. On a besoin de ya ayyuha alladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum. Non, c'est pas ça. Yaj'al lakum furqana. Et le furqan, c'est le discernement. Quand Allah te permet de discerner entre le bien et le mal, entre le péché, le fitna, le haram, le makruh, ce qui est mauvais, ça, ce sont les plus beaux cadeaux qu'Allah a pu nous accorder. فَنَسْأَلُهُ نَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى وَصِفَاتِكَ الْعُلَى نَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ